Je suis en compagnie du docteur François Corbin, médecin-chercheur au Centre de recherche du Centre universitaire de l'Université de Sherbrooke et professeur titulaire à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de la même université. Docteur Corbin, comment allez-vous?
Ça va bien, merci.
Ça va bien, je vous remercie. Aujourd'hui, j'aimerais que vous nous entreteniez un peu d'une maladie qui est importante, là, qui a une prévalence non négligeable, qui est héréditaire, qui est malheureusement méconnue, je dirais. On appelle le X fragile. Ça porte un nom un peu curieux. Parlez-nous-en.
Et oui, effectivement, dans le fond, le syndrome du X fragile, on parle d'une maladie rare parce que c'est moins de 2000. Donc, on parle d'un cas sur 2000 chez les garçons, puis c'est un cas sur 1000 chez les filles, un cas sur 4000 chez les garçons. Puis c'est une déficience intellectuelle héréditaire. Donc, c'est la première cause, en fait, de déficience héréditaire. Parce que la première cause qu'on connaît bien, là, on appelle la trisomie 21.
Par exemple,
ou le syndrome de Down. Donc, ce qui est particulier, disons qu'au point de vue de la trisomie 21, ils sont facilement reconnaissables, alors que le syndrome du X fragile, ils sont plus difficilement reconnaissables.
D'accord.
Parce qu'ils ressemblent un peu à, comme on dit, à Monsieur Tout-le-Monde. Donc, les gens pourraient les croiser puis pas s'en rendre compte. Par contre, à leur contact, le contenu de la science intellectuelle, c'est sûr qu'ils vont peut-être remarquer un comportement un peu différent, je dirais. Là.
Au Québec, ça représente combien de cas qui ont été identifiés?
Bien, en fait, il y a des milliers de cas.
D'accord.
Donc, on est capable de les identifier parce qu'on a vraiment un test très, très fiable, parce qu'on connaît bien la mutation, parce que c'est une mutation en particulier qui cause l'absence d'une protéine au niveau du cerveau. Et c'est l'absence de cette protéine-là qui empêche le développement normal du cerveau. Donc, les gens qui ont le syndrome du X fragile aussi, ils ont une espérance de vie normale. Ils n'ont pas de maladie parce que souvent, au niveau de la trisomie 21, des fois, il y a des problèmes cardiaques, etc. Mais eux, donc, ce n'est pas des gens qu'on voit dans l'hôpital, donc, mais c'est des gens pour lesquels c'est très, très lourd le quotidien avec ces enfants-là. Puis ça arrive toujours dans des familles qui n'en avaient pas avant.
C'est un peu
particulier comme...
C'est héréditaire, mais ça survient brusquement.
Ça se vient brusquement parce que c'est comme une mutation, mais qui évolue de génération en génération jusqu'à arriver au syndrome du X fragile. Puis évidemment, lorsqu'on en découvre un, bien là, évidemment, on fait un dépistage dans la famille.
La fratrie, oui.
Puis évaluer les risques. Mais c'est sûr que ça va réapparaître dans d'autres familles plus tard. Donc, c'est assez sournois. Et je vous dirais que c'est très, très difficile parce que c'est transmis toujours par la mère. Et il y a toute la question, en fait, de culpabilité les gens ont naturellement par rapport à ça. Puis on s'entend que les mères ne sont pas plus coupables de ça.
Non,
ils sont coupables de donner des yeux bleus à leur enfant. Là.
Je dois vous dire que dans ma famille, on est 4 enfants. Nous, tous les 4, faisons de la rétinite pigmentaire, qui est aussi une maladie héréditaire, mais cette fois de l'œil. Puis jusqu'à son décès, ma mère se sentait toujours très... très coupable d'avoir donné naissance à 4 enfants qui seraient handicapés visuels. Là. On avait beau lui dire qu'on était tout de même assez heureux, malgré tout, mais je comprends. Mais le fait que ce soit... est-ce que c'est prévisible, le fait? Est-ce qu'on peut dépister ça donc chez les parents avant qu'ils n'envisagent d'avoir une famille?
Bien, disons que la prévalence... c'est parce qu'il y a comme une étape juste avant qu'on appelle la prémutation.
D'accord.
Que la mère est porteuse, on parle d'un risque de 1 sur 259 d'avoir cette qu'on appelle la prémutation. Mais je vous dirais que j'ai fait une revue de littérature dans les dernières années, puis je vous dirais que bien que les outils sont, disons, disponibles, le risque est quand même relativement faible d'arriver avec un enfant de syndrome du X fragile. Puis certains ont tenté de faire l'expérience et vous savez, de dépister par exemple des femmes enceintes. Et là, on leur apprend que finalement, il y a un risque d'avoir un enfant X fragile.
Oui.
Ça peut rapidement changer un événement
heureux.
Qui peut être heureux vers un malheureux.
Anxiogène,
alors que finalement,
oui.
Plusieurs de ces femmes-là vont être alertées un petit peu pour rien.
Oui, donc, je comprends. Il y a une question éthique là, de l'usage de ce genre de test, mais une fois que l'enfant est parmi nous, vous avez quand même, à ce moment-là, vous allez tester les frères et sœurs ou la fratrie. Mais il faut s'occuper de l'enfant qui va avoir des besoins qui peuvent être exigeants pour la famille.
Tout à fait. Puis, lorsqu'il y a des filles qui peuvent avoir ce qu'on appelle la prémutation, donc ils sont à risque d'avoir un enfant qui est fragile, il peut avoir un diagnostic pré-implantatoire. Puis, vous savez, ce n'était pas assuré par le gouvernement dans les dernières années. Là, moi, ça avait quelque chose qui m'avait complètement perturbé parce que c'est absolument nécessaire là, de faire ce dépistage-là parce que c'est des enfants très, 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 très lourds. Là. On parle de déficience intellectuelle de moyenne à sévère. Là. Mm-hmm. Donc, c'est des enfants donc avec un niveau intellectuel bien souvent de l'âge de 2 ans. Donc, à plus de déficience intellectuelle, ben il y en a le tiers qui vont avoir en plus un diagnostic d'autisme.
Ah, d'accord.
Donc, et des problèmes d'agressivité, des problèmes d'anxiété. Donc, le niveau d'adaptation là, est très, très difficile là, pour ces enfants-là là, qui ont une espérance de vie normale. Donc, à chaque étape de la vie, il y a d'autres défis qui se mm-hmm. présentent à eux et des difficultés à s'adapter à chacune de ces étapes-là.
Parce que peut-être souvent les symptômes apparaissaient, mais il était impossible de mettre le doigt exactement sur la cause, là, parce qu'il y a comme une multiplication de syndromes qui, à la longue, peut-être sonne l'alerte. Mais une fois qu'on a dépisté ou qu'on constate que l'enfant vit avec le syndrome de l'X fragile, plus souvent les garçons que les filles, qu'est-ce qu'il y a à faire? Parce que c'est incurable, il n'y a rien à faire. C'est une maladie qui est génétique. On ne peut pas pallier à ça.
Mais je vous dirais, il y a quand même beaucoup de recherches. Moi, mm-hmm. je suis chercheur à ce moment-là. Et étant donné que, vous savez, la déficience intellectuelle, ça touche 2 % de la population. Mm-hmm. C'est quand même pas négligeable. Donc, c'est 2 fois plus fréquent que l'autisme. Donc, et comme c'est dû à l'absence d'une seule protéine, donc les gens s'intéressent beaucoup parce qu'ils se disent, bien écoutez, si c'est une protéine, c'est probablement moins complexe que, mm-hmm. par exemple, dans le contexte de la trisomie 21, on parle d'un chromosome complet de
D'accord.
plus. Donc, il y a beaucoup d'intérêt au point de vue de la recherche de trouver des traitements, en fait, pour changer, en fait, la trajectoire de vie de ces enfants-là.
Mm-hmm.
Et surtout d'améliorer de plus en plus la question de l'autonomie. Alors, il y a beaucoup de chercheurs qui sont dans ce domaine-là. La recherche, vous savez, ça progresse, mais ça progresse toujours lentement. Mais
oui.
il y a quand même eu des études internationales qui ont lieu, puis il y en a encore qui vont commencer bientôt pour des maladies rares. Touchant des déficiences intellectuelles, c'est plutôt rare qu'on voit des compagnies vouloir s'investir. Mais ça montre l'intérêt, en fait, vers le syndrome du X fragile pour dire, ben est-ce qu'il y a certains de ces traitements, en fait, qui pourraient s'appliquer à d'autres formes de déficience intellectuelle? Mm-hmm. Donc, d'où l'intérêt de la recherche à ce niveau-là.
Parce qu'il y a une protéine à cibler au lieu que ce soit un champ de recherche qui soit plus large. Vous avez comme une seule protéine qui cause tout
oui,
ce tracas. Voilà.
Vous avez tout à fait raison, mais c'est une protéine, mais on se rend compte que quand même, elle fait beaucoup, beaucoup de choses, cette protéine-là.
Oui.
Et en fait, c'est impossible de remettre la protéine à l'intérieur de chacun mm-hmm. des neurones, vous savez, parce que le cerveau, c'est pas facile à avoir accès. Donc, ce qu'il faut faire, c'est en fait compenser en fait les causes de son absence mm-hmm. au niveau du cerveau pour espérer en fait créer des effets là, persistants là, chez les patients et les familles.
Est-ce que vous pouvez remonter puis intervenir au moment de ce que vous appelez la prémutation? Où il y a comme une sorte de gestation de la situation à venir quelques générations précédentes?
Écoutez, ce qui n'est pas facile souvent, c'est que, comme je vous dis, c'est quelque chose qui évolue, cette mutation-là.
Mm-hmm.
Puis lorsqu'on découvre des familles, bien évidemment, on teste les gens qu'on connaît. Mais vous savez, souvent, il y a les grandes tantes, les grandes oncles, mm-hmm. les cousines. Il y a des gens dans la famille qui sont beaucoup plus éloignés pour lesquels on a perdu de vue. Et là, on ne sait pas trop où est-ce qu'il est rendu. Est-ce que eux aussi, la mutation s'est transmise? Et donc, peut-être que ça va être dans des régions très éloignées qu'on peut le voir, mais on comprend en partie les mécanismes qui vont faire qu'il va y avoir cette expansion-là, en fait, cette évolution-là, mais on ne les comprend pas complètement. Puis la prévalence de ça, elle est à peu près la même partout dans le monde.
Mm-hmm.
Donc, c'est
D'accord.
quelque chose qui est quasiment naturel au point de vue génétique. Là. Donc, les solutions ne sont pas très simples à ce niveau-là. Dans le fond, ce qu'il faut, c'est identifier les gens, Puis, je vous dirais que dépend, les accompagner, je vous dirais, si, par exemple, ils veulent avoir des enfants, puis avoir des façons de prévoir s'ils vont avoir des enfants qui sont fragiles, mais je vous dirais que c'est pas simple. Là.
Non, je comprends. Récemment, enfin, au cours des dernières années, un peu suite à un colloque qui, je pense, était organisé par l'Université de Sherbrooke, les parents qui ont des enfants qui composent avec l'X fragile, il y a un organisme qui a été créé qui s'appelle X fragile Québec. Donc, oui, commence à y avoir une conscientisation de cette problématique.
Ben en fait, effectivement, je travaille vraiment depuis de nombreuses années sur le syndrome du X fragile et effectivement, j'ai, disons, participé en partie, disons, mm-hmm. à l'émergence, en fait, de cette association-là, X fragile Québec. Puis, c'est vraiment un partenariat qu'on a avec l'association pour essayer de répondre, en fait, le plus possible aux besoins des familles. Évidemment, j'essaie de répondre à leurs besoins, mais avec mes compétences, parce que, évidemment, il y a des impacts au point de vue de l'éducation, mm-hmm. au point de vue de plein d'aspects que je ne peux pas nécessairement traiter, mais au moins de les accompagner. Et dans les projets de recherche, ben, il y a des familles qui participent. Il y a des familles qui décident de ne pas participer. Moi, je fais de suivi des familles aux plus de 70 familles à travers tout le Québec. Et heureusement, dans le contexte de la pandémie, on a eu la possibilité de faire, en fait, de la visioconférence avec ces familles-là, chose que avant la pandémie, ce n'était pas possible de le faire mm-hmm. directement avec les intervenants. Donc là, ça m'a permis, en fait, de communiquer avec des gens aussi loin que Rouyn-Noranda ou en Gaspésie et d'apporter un certain support, parfois aux médecins traitants, mais aussi directement aux parents des familles aux prises avec syndrome du X fragile. Parce que ça demeure quelque chose quand même, comme vous avez dit, de peu connu et il y a quand même une approche là, particulière qu'il faut avoir pour ces enfants-là.
Et ça, si on peut identifier que l'enfant souffre du syndrome de l'X fragile, à ce moment-là, on peut mieux anticiper les besoins parce que c'est des besoins, comme vous dites, qui vont s'étaler sur la durée d'une vie parce que l'espérance de vie n'est pas amoindrie par l'X fragile, c'est juste que la vie va être compliquée et à chaque étape de la vie.
Oui, effectivement. Et puis moi, ce que je trouve un petit peu triste actuellement, c'est que, bien, je vous dirais qu'on voit beaucoup de choses par rapport à l'autisme, puis je trouve que, en fait, toutes les initiatives qui ont été faites, puis je pense entre autres à Autisme bientôt majeur, puis maintenant Autisme maintenant majeur par Charles Fortune, je pense que ça a aidé à démystifier un peu l'autisme et quand même beaucoup, beaucoup de recherches. Par contre, du côté de la déficience intellectuelle, je pense qu'il reste encore beaucoup de travail mm-hmm. à faire de ce côté-là. Et je vous dirais que, comme je vous disais, il y avait un tiers des enfants avec l'X fragile qui ont un diagnostic d'autisme. Bien, vous savez, les services ne sont pas les mêmes mm-hmm. avec un diagnostic D'accord. d'autisme ou non, mais il y a quand même beaucoup de besoins à la base pour la déficience intellectuelle. Donc, il y a un petit peu une injustice, en fait, mm-hmm. au niveau de ces familles-là, fait qu'il y a certains parents qui souhaitent vraiment que leur enfant ait un diagnostic d'autisme pour avoir
D'accord, je comprends. Oui, ça, c'est un effet pervers, ça, des avancées de la société qui ne sont pas toujours égales, mais enfin, on espère tous arriver au même but le même jour.
Je vous dirais, l'autre aspect que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est sûr que les garçons, ils ont une déficience intellectuelle moyenne à sévère, donc il y a des besoins particuliers. Mais chez les filles, il y a aussi de la déficience intellectuelle mm-hmm. au niveau du syndrome du X fragile. En fait, le tiers en ont. Et la déficience est souvent limite ou légère. Puis je vous dirais qu'eux autres aussi, ils ont des défis qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais eux, ils se rendent compte plus de la différence mm-hmm. qu'ils ont et le regard des autres, parce qu'il y a vraiment une incompréhension de l'handicap, de la déficience intellectuelle mm-hmm. qu'on peut voir. On dirait que quelqu'un qui manque une jambe, qui a de la misère à marcher, les gens comprennent rapidement.
Oui, mais ce qu'on ne voit pas nous fait plus peur encore. Et ça c'est, je pense que c'est malheureusement la nature humaine. Mais il faut continuer de travailler dans ce sens-là. Je vous remercie, Dr. Corbin, de nous en avoir parlé. Puis on va suivre le dossier. Dr. François Corbin de l'Université de Sherbrooke, merci. Bonne journée.
Merci, M. Beauregard. Bonne journée. Au revoir.